Il y a toujours ce risque qui est là, en fait. On le savait déjà, et de travailler dessus, ça nous conforte dans l'idée de faire tout le temps attention à ce qu'on met sur Internet, aux répercussions et au fait que ça ne s'efface pas. Tout reste. Même si on l'efface de Internet, du réseau social.
Mais rien n'est jamais effacé.
Rien n'est jamais effacé, donc en fait, ça fait peur d'un côté, donc on se dit non, ça je mets pas, ça je mets pas.
Bonjour à tous. Le cyberharcèlement est un phénomène de plus en plus répandu et qui prend des formes très diverses. Insultes, piratage de comptes, usurpation d'identité, publication d'images ou de vidéos, propagation de rumeurs, les dégâts peuvent être considérables. Les victimes harcelées via les réseaux sociaux, les forums, les emails ou l'envoi de simples SMS sont souvent des femmes piégées, par exemple, par leurs anciens compagnons et les jeunes, bien sûr, filles ou garçons, qui sont en première ligne de par leur pratique des réseaux sociaux. On considère qu'à partir de la quatrième, au moins 9 collégiens sur 10 ont un smartphone et 15 à 20% des adolescents ont déjà été victimes de cyberharcèlement. C'est un délit difficile à constituer. Les peines paraissent souvent bien légères par rapport aux préjudices subis. Les médecins parlent même pour certains cas de syndrome post-traumatique, conséquence d'un choc ultra-violent. Dans cette émission, Interception donne notamment la parole aux victimes et leurs témoignages, vous allez l'entendre, sont sidérants. Cyberharcèlement, la haine au bout du clic, c'est un reportage à Toulouse de Jean-André Giannichini et Stéphane Iglesis.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour Sophia.
Bonjour.
Alors vous avez été victime sérieusement de cyberharcèlement. Dans quelles circonstances c'est arrivé en fait ?
J'avais un compagnon, on s'est rencontrés en 2012 et j'ai eu la bêtise de me laisser filmer et prendre en photo par lui. J'avais confiance en lui et puis il s'est servi de ses images pour me faire chanter, pour me manipuler, obtenir ce qu'il voulait.
Vous saviez qui il était, cet homme-là, avant de... où il vous a un peu berné aussi, y compris sur sa personnalité?
Non, il m'a complètement berné, complètement. J'ai découvert un tas de choses sur lui bien plus tard. Non, j'ai complètement été berné, manipulé. Il m'a menti. C'était vraiment une personne avec une seconde vie, voire triple et quadruple vie, quoi.
C'est vous qui avez décidé d'arrêter de le voir ?
Oui, j'ai décidé d'arrêter de le voir. Donc au bout de 2 ans, enfin 1 an et demi de relation, j'avais appris pas mal de trucs à son sujet. Et puis il commençait à être violent, pas physiquement mais psychologiquement. Il commençait à être... je m'étais aperçue d'un paquet de mensonges et du coup j'ai pris la décision de me séparer de lui. Et c'est à partir de là que tout a commencé, quoi.
Sophia a 33 ans. Elle est assistante de direction dans une PME de la région toulousaine. Sophia nous a donné rendez-vous chez son amie Anne Pfeiffer, présidente de Cybarso, une association qui lutte contre le cyberharcèlement. C'est par hasard que Sophia a appris que ses photos et vidéos intimes circulaient sur Internet.
C'est les amis qui l'ont vu. Je me souviens d'un coup de fil d'un ami qui m'a dit « Tiens, c'est drôle, tu t'es mis sur Adopte un mec, ça te ressemble pas trop ce truc, pourquoi t'as fait ça quoi ?»
Vous n'avez jamais adhéré à ce site Internet ?
Non, c'était pas moi, c'était une usurpation d'identité. Quoi. Il avait créé un profil à mon nom, avec mon identité, ma photo, mon nom, mon prénom, mon adresse.
Mais ce site internet ne demande pas de garantie pour créer un profil internet ?
La preuve que non. Aucun site ne demande une garantie sur l'identité des gens. Pour la création de profil, c'est absolument libre. On peut créer un profil en une fraction de seconde avec un nom et un prénom choisi au hasard et une photo qu'on a prise sur Internet. Quoi.
Est-ce que vous avez pu contacter ce site Internet en lui disant « Écoutez, je veux que vous supprimiez ce profil ».
Oui. Alors ça, c'est assez efficace. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire à chaque fois. Sauf que c'était à un moment 3-4 profils par jour. Donc on passait notre temps à faire ça parce que je n'étais pas seule à le faire. Donc je pouvais contacter les hébergeurs pour faire supprimer le profil ou enlever les photos et les vidéos. Parce qu'il y a eu également des vidéos malheureusement diffusées sur les sites pornographiques. Et c'était assez rapide. En demandant la suppression des profils et des vidéos, ils le faisaient de suite. Quoi.
Il y a des vidéos et des photos qui continuent à circuler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible techniquement de supprimer tout ?
Sur les sites, à partir du moment où moi je le demande, où je leur explique que c'est moi et que je demande la suppression de ces photos, ils le font. En revanche, il faut que je trouve ces photos. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que je ne sais pas Enfin, c'est une vraie toile d'araignée, quoi. À partir du moment où il y a une photo qui sort, elle est téléchargée par d'autres sites, donc c'est compliqué d'identifier tous les sites qui diffusent ces photos, quoi.
Vous avez essayé de contacter l'auteur présumé de cette usurpation d'identité pour que lui arrête tout simplement de le faire ou...
Ça m'a détruite de voir ces images sur Internet, de voir les commentaires des gens, ça a été catastrophique pour moi. Donc évidemment, je lui ai supplié de les retirer et il n'a pas fait. Quant à la police ou au système judiciaire, c'est compliqué d'apporter déjà la preuve de ça. Et puis c'est compliqué pour la police. Il n'y a pas beaucoup de services qui ont la compétence pour le faire. Il n'y a personne qui a pu m'aider. Il n'y a personne qui a pu me renseigner. Même la cyberpolice que j'ai contactée, elle a dit que c'était impossible de m'aider, quoi. Donc j'étais toute seule face à ça. Non.
Ça ne s'est pas limité à la simple diffusion de photos et de vidéos, ce qui était déjà beaucoup.
Il a créé des profils avec mon numéro de téléphone professionnel, mon adresse professionnelle et personnelle. Donc il y a des gens qui se sont déplacés, il y a des gens qui m'ont harcelé au travail. Je me souviens d'un soir en rentrant du travail où j'avais une trentaine de post-it collés à ma porte. Et c'était un homme qui me disait « appelle-moi son numéro de téléphone » et voilà. Il y en a qui sonnaient à mon interphone en bas et au travail, il y en a deux qui sont venus.
Il y a eu aussi des éléments qui ont été communiqués à votre employeur et à vos collègues de travail?
Oui, mes collègues proches, la personne qui travaillait avec moi dans le même bureau, l'équipe de commerciaux, et il a envoyé aussi des liens à Paris, au siège, donc ça a fait le tour.
Vous avez été gravement malade et oui. Vous l'êtes encore, vous êtes en rémission, mais c'est très long. Est-ce que vous pensez que la maladie a un lien avec tout ce qui vous est arrivé?
Oui, évidemment, oui. Je suis persuadée que j'ai, à cause de tout ça, fatigué mon corps, fatigué mon esprit, et que, ben voilà, ça, c'est une maladie auto-immune que j'ai déclenchée. Donc, je suis tombée malade une semaine après avoir pris la décision d'arrêter de supprimer. Parce que, après y avoir réfléchi, je me suis dit que c'était nourrir sa perversité, que, que ça l'excitait trop de me voir en train de surveiller et supprimer toutes les vidéos, supprimer tous les profils. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et une semaine après, je suis tombée malade, quoi. Donc c'est difficile de ne pas faire le lien, oui, en effet. C'est une maladie qui touche les gens qui n'ont pas forcément un virus, quoi. Déjà, c'est le syndrome Guillain-Barré. C'est un syndrome auto-immun, dégénérescence des anticorps. Et en fait, cette dégénérescence arrive normalement après un virus. Donc ça peut être une otite, une gastroentérite, enfin voilà. Mais il y a des gens qui contractent ce syndrome sans avoir de virus. Après un décès, par exemple, ou un gros stress, c'est déjà arrivé, quoi.
D'abord, vous êtes retrouvé en fait complètement paralysé, c'est ça? On peut dire ça comme ça?
Oui, complètement paralysé jusqu'au système respiratoire. Donc une paralysie totale. J'ai passé 8 jours en réanimation dans un état vraiment tétraplégique, ils l'ont dit, quoi. J'ai abandonné mon corps à ce moment-là. Et quand je me suis réveillée, quand ils ont commencé le traitement et à filtrer mon plasma, j'ai appris que mes amis avaient créé ce collectif et cette association. Ben là, il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour que je rebondisse. C'est fou à dire, quoi, mais j'ai eu envie de voir ça d'une façon positive, alors que ça a été dégradant, humiliant, et que pour voir le côté positif de la chose, faut vraiment gratter. Et bien là, ça m'est apparu, quoi, vraiment. J'ai eu envie d'avoir une meilleure considération pour moi d'abord, parce que c'est assez égoïste, mais voilà, en sortant de la maladie, il fallait que j'ai une meilleure considération pour moi. Que, ok, mon image avait été utilisée, mais à nous de servir de cette histoire pour en faire quelque chose de positif. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est une association qui aide pas que les gens qui ont des problèmes avec leur image par rapport à des photos nues ou pornographiques. Ça peut être aussi le cyberharcèlement d'anciens collègues de travail, ou enfin de jeunes entre eux. Ça touche vraiment toutes les victimes de cyberharcèlement, quoi.
Qu'est-ce que vous ne referiez pas?
Ce que je ne referais pas, c'est évidemment que je ne me laisserais pas filmer et que je ne me laisserais pas faire prendre en photo. C'est sûr que je le ferai pas, et je pense que je le ferai plus jamais. Ça a été une erreur, c'est sûr.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour Madame Pfeiffer, c'est
Bonjour.
Ça
oui.
Et Madame Pfeiffer, vous êtes la présidente de l'association à Colomiers?
À la fédération des associations Colomiers.
Et c'est là où vous avez le siège de l'association?
Exactement.
Bon, eh bien, on va rentrer. Anne Pfeiffer, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé cette association Cibarso?
Bon, en fait, déjà, pour la première raison, c'est parce qu'on a une amie qui est victime de cyberharcèlement. Et donc, quand elle est tombée malade il y a quelques temps, on voulait absolument que quelque chose soit fait parce que ça faisait 3 ans que ça durait. Et donc, on s'est dit, voilà, on va essayer de se mobiliser pour qu'au moins, elle puisse se rétablir sans avoir ces problèmes de cyberharcèlement et que ça cesse. Et puis, pour une deuxième raison, parce qu'en fait, je suis enseignante en lycée. Et puis, je me rends compte que mes élèves utilisent pas toujours très bien les réseaux sociaux. Et donc, j'étais sensible à ça et je voulais faire de la prévention.
Comment ça s'est passé, en fait, la création de l'association et quelles ont été vos premières actions?
Alors, au départ... Donc c'est par rapport à notre amie, on a créé un collectif, on a fait une pétition en ligne qui aujourd'hui regroupe 12 000 signatures. Il y a quelques médias qui nous ont contactés et on a demandé en fait à ce moment-là, dans tous les entretiens qu'on avait, d'une part aux gens de signer la pétition, mais aussi s'il n'y avait pas des personnes qui pouvaient nous aider d'un point de vue technique pour justement rendre son irréputation en fait à notre ami.
Donc l'irréputation, c'est la réputation sur Internet.
C'est ça. Du coup, on a rencontré des gens qui nous ont aidés et on s'est dit, bah, il n'y a pas de raison que ce soit que pour notre ami. On a envie de créer une association et de s'investir pour lutter contre le cyberharcèlement.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées avec l'association ou avec votre ami qui a dû sans doute faire appel à la justice, je suppose?
Bien sûr qu'elle a porté plainte, parce qu'au départ, il y a des gens qui disaient « mais en fait, il suffit de porter plainte, mais ce serait tellement simple ». Il se trouve que la personne qui lui fait subir cela se cache derrière son écran, en fait, en utilisant différents moyens pour qu'on ne puisse pas remonter à elle, ce qui fait que, à lui, pardon. Ce qui fait que les plaintes étaient au départ toutes classées sans suite, non pas parce que la justice ne fait pas son travail, mais tout simplement parce que c'est impossible d'identifier la personne.
Est-ce que l'association a aidé à ce que l'action judiciaire progresse?
Alors, au niveau de la justice, nous, on ne sait pas où ça en est, puisque l'affaire est en cours, puisqu'il y a une juge d'instruction qui a été nommée. Mais par contre, au niveau de l'association, ce qu'on a réussi à faire, c'est que maintenant, lorsqu'on tape donc le nom et le prénom de notre ami sur Internet, eh ben, il n'y a plus, en tout cas sur la partie Google que tout le monde va regarder quand on rencontre quelqu'un ou autre, eh ben, il n'y a plus du tout de lien direct vers des choses qu'elle ne veut pas voir en ligne.
Et on comprend bien que la principale difficulté, elle est technique, parce qu'il n'est pas toujours possible de remonter à la source, c'est-à-dire à la personne qui est auteur des délits ou des crimes.
Ce qui est particulier dans le cas du cyberharcèlement, c'est que si quelqu'un vous agresse, il peut y avoir des témoins, il peut y avoir des preuves matérielles qui sont rapidement établies. Là, il y a des témoins. C'est vrai que les gens sont témoins, puisqu'il y en a, il y a d'autres personnes qui voient ce qui est diffusé sur vous. Le problème, c'est que votre agresseur, il est complètement protégé par son écran. Donc, c'est très, très compliqué, ensuite, de prouver qui est derrière tout ça.
Anne Pfeiffer, là, on attend une personne que vous avez rencontrée à la suite d'un appel que vous aviez lancé pour l'association.
Alors, là, justement, ça sonne.
Donc, on va aller l'accueillir.
Ça va?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes
François? Voilà, exactement.
Alors vous attendez pour le café, c'est bon. Parfait. Vous aussi, vous prenez du café?
Ouais, on va sortir des chaises.
Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde?
J'ai lu un article sur la Dépêche. Qui racontait l'histoire de Sofia et les conséquences dramatiques. Et surtout, j'ai vu à la façon dont c'était rédigé que les gens qui s'occupaient de ça n'y connaissaient manifestement rien en informatique. Ils parlaient dans l'article de brouilleur d'IP, mais c'est un terme qui n'existe pas techniquement. Ça, voilà. Donc tout de suite, j'ai compris qu'ils ne savaient pas comment faire pour avoir la preuve. Parce que le problème, d'après ce que j'ai compris, la justice est bloquée parce que on bute sur la preuve du harcèlement. Comment prouver que c'est bien un tel qui écrit ça? Voilà. Et effectivement, c'est pas facile à prouver.
Vous faites partie d'un mouvement qui s'appelle les Anonymous, c'est ça?
Ça n'existe pas. Les Anonymous, c'est un mythe. N'importe qui peut se déclarer Anonymous. On n'a pas besoin, on n'a pas une carte de membre. Voilà. Donc, dans le sens où je préfère garder mon anonymat, effectivement, je suis un anonyme. Donc, maintenant, la mode, c'est de dire Anonymous. Bon, alors, je rajoute le mousse derrière. Mais je ne fais partie d'aucun club. Non.
Et alors, sans entrer trop dans les détails, c'est votre secteur d'activité, l'informatique?
Oui.
Ça, c'est vous avez clairement une expertise quand même.
Oui, tout à fait. Et plus, c'est-à-dire je fais partie des quelques assez rares fournisseurs d'accès associatifs. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont accès à Internet en passant par Free, Orange, etc. Mais il n'y a pas que eux. Il existe des tout petits fournisseurs associatifs, donc qu'on ne connaît pas évidemment. Et du coup, en tant que fournisseur, on doit pouvoir identifier sur requête judiciaire, telle heure à tel jour, qui a utilisé telle adresse IP.
Qu'est-ce qui fait que la justice, d'après ce que je comprends, est un peu démunie? Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger?
Ah, pour se protéger, on ne peut pas. Il va falloir intégrer ça. Maintenant, c'est une révolution de la société. Il y a eu avant Internet et puis il y a après Internet. Avant Internet, il y avait une vie privée. Ce que le village colportait entre le curé et le maire, il y avait des messes basses, etc. Bon, très bien. Maintenant, ça n'est plus possible. Tout est mondial instantanément. Les vidéos que s'échangent les jeunes de nos jours, c'est l'équivalent pour ma génération et la vôtre, des petits mots qu'on se mettait sur des petits bouts de papier à la cour de récré. Sauf que le petit mot, petit bout de papier à la cour de récré, à la fin de la cour de récré, il avait disparu. Et sur Internet, c'est pas le cas. Il n'y a plus le droit à l'oubli comme ça. Quelque chose qui existe sur Internet, c'est très difficile. On peut le copier infiniment, sans perte de qualité. C'est très difficile de s'en protéger.
Et quand on veut nettoyer, quand on a un problème, quand on veut faire supprimer, donc vous me dites qu'on ne peut pas s'adresser à Google, par exemple, en lui disant « Écoutez, je suis victime d'un harcèlement, retirez tel et tel contenu. »
Alors, ça peut marcher si on passe d'abord par la justice et qu'on obtient une décision justice. Donc là, oui, effectivement, Google, quand même, s'il reçoit une requête de la justice française pour retirer tel ou tel truc, normalement, il va le faire. Mais si vous êtes un simple particulier, il va vous répondre, prouvez qui vous êtes. Envoyez une copie de votre pièce d'identité avec photo et tout et tout. Donc voilà, c'est très compliqué.
Oui, bonjour, c'est Stéphane Iglesis pour Interception. Merci. Bonjour Hélène Chéric, vous êtes avocate à Toulouse et vous défendez notamment des victimes de cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une législation spécifique en la matière?
Il y a eu toute une évolution jurisprudentielle qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons un délit spécifique pour condamner justement les auteurs de cyberharcèlement. Désormais, on a cet outil-là qui permet donc de lutter contre cette pratique du revenge porn, la revanche pornographique, c'est-à-dire la personne qui est quittée, qui va vouloir à tout prix se venger en diffusant donc sur le net des photographies, des vidéos donc à caractère sexuel dans le but évident de nuire à l'ex-conjoint, à l'ex-compagne.
On a vu deux victimes hier, dont une que vous défendez, Sophia, dont un ex-conjoint, par exemple, l'inscrit sur un site internet. Normalement, le fait de l'inscrire sur un site internet, ce devrait être illégal. Est-ce que ça l'est vraiment dans l'état actuel du droit?
Ça l'est. Il y a déjà un délit qui est celui de l'usurpation d'identité. En l'occurrence, c'est ce qui s'est produit. Dans un premier temps, il l'a menacé de diffuser des vidéos et des photos en disant « Pour le moment, tu as bien de la chance, je bloque ta famille et tes proches, ton entourage professionnel. Mais si ça continue, donc ça a été un chantage crescendo, je vais le diffuser auprès de tes proches. » Et il a fini par mettre à exécution ses menaces. Des personnes de son entourage très proche ont reçu directement dans leur boîte mail un lien pour voir donc une vidéo ou une photographie intime de Sophia.
Qu'est-ce que vous espérez des magistrats qui suivent ce dossier?
Sophia, systématiquement, a dénoncé les faits que lui infligeait donc son ex-compagnon. Elle a déposé plainte et en 2015, ça a été un choc pour elle, elle s'est rendue compte que le parquet avait classé l'ensemble des plaintes qu'elle avait déposées. Une fois qu'elle a eu accusé le coup, c'est certain, elle s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on a ensemble évalué et étudié l'intégralité de son dossier. après que je lui ai bien indiqué les risques d'un non-lieu, après que je lui ai dit qu'il fallait consigner également auprès du régisseur du tribunal une somme d'argent, elle a voulu continuer le combat en se disant que voilà, un juge d'instruction disposerait de davantage d'outils pour mener de nouvelles investigations qui permettraient d'appréhender monsieur et de caractériser donc à la fois l'infraction dont elle se plaint, mais également l'auteur de l'infraction. Parce qu'il faut quand même savoir que cette personne a déjà été condamnée par la justice pour des faits similaires sur une autre ex-compagne. Mais visiblement, la peine n'a pas été suffisamment dissuasive pour l'empêcher de recommencer.
Quand on est dans un cadre de cyberharcèlement, alors bien sûr, il faut garder un certain nombre d'éléments de preuve. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, en fait, d'après ce que vous savez ?
Il faut avoir donc l'énergie de conserver, de faire des captures d'écran pour effectivement avoir des preuves à apporter donc au service de gendarmes ou de police. Et c'est difficile d'obtenir ces éléments-là. Les victimes sont condamnées à garder des traces. Et quelque part, Sophia, pour moi, c'est un supplice de Sisyphe qu'elle vit depuis la condamnée monsieur, à aller sur Internet, à taper fébrilement donc sur des moteurs de recherche son nom, son prénom, pour voir si à nouveau il avait remis en ligne donc des vidéos et des photographies, et ça continue. Elle signale auprès de Facebook, auprès de Google France, auprès de Microsoft France, donc effectivement les comptes sont fermés, mais quelques temps après elle se rend compte qu'il a recommencé, et c'est le calvaire qui ne se termine jamais. On dispose désormais d'outils au niveau de la loi pour condamner ce type de pratique. Le problème, c'est l'application de la loi. Autrefois, nous avions des délits qui étaient des délits inadaptés, finalement, par rapport à ce que vivaient vraiment les victimes de cyberharcèlement. C'est un nouveau phénomène, finalement. C'est assez récent, le cyberharcèlement. Donc, désormais, nous avons des outils aux juges de les appliquer et de taper fort pour que, justement, ce soit davantage dissuasif.
Oui, bonjour Marie, c'est Stéphanie Glésis avec Jean-André pour Interception.
Oui, je vous comprends.
Merci.
Il y a quelques mois, j'ai appris que mon ex-compagnon, avec qui j'étais déjà séparée depuis 2 ans, avec lequel je travaille, avait créé donc 2 sites me concernant avec des photos donc de moi nue, donc des photos de notre intimité. Sur 2 sites, je ne sais pas si on peut appeler ça des sites pornographiques, mais enfin des sites d'échange, ou je ne sais pas trop quoi. Et en créant donc 2 comptes avec mon prénom et en se faisant passer pour moi. En dialoguant et en discutant avec les hommes qui venaient regarder mes photos et en se faisant passer pour moi.
Est-ce que vous l'avez contacté pour lui demander d'arrêter ou de fermer ses comptes ?
De suite. C'était un matin en plus où je partais moi au travail, donc j'allais être confrontée à lui. Il a fermé les 2 comptes.
Est-ce que cette affaire s'est ébruitée dans votre entreprise ou pas ?
Oui, moi j'en ai parlé donc à mon employeur, qui a été vraiment très présente durant cette période et très compréhensive d'ailleurs. Et je me suis retrouvée avec une paralysie faciale périphérique. J'avais toute une partie du visage qui ne fonctionnait plus. Et puis j'étais trop choquée pour retourner au travail, sachant que je travaille dans la même pièce que lui tous les jours.
Et ça a eu des conséquences physiques graves pour vous ?
J'ai passé 3 mois quasiment à plus sortir, parce qu'on a d'abord ce sentiment de se sentir sali, profondément, humilié. Le regard des gens après. On a toujours l'impression que peut-être que telle personne m'a vu, on n'ose plus sortir. Et après, le fait de plus supporter pendant 2-3 mois d'être dans des endroits publics avec du monde autour. Et en plus de ça, donc, je me suis retrouvée physiquement avec une paralysie faciale pendant 1 mois.
Quel conseil vous donneriez aux personnes qui se retrouvent dans votre cas ?
De prendre un avocat, de se défendre, évidemment.
Vous avez porté plainte ?
Ma plainte a été enregistrée, sans difficulté. Par contre, après, c'est évidemment, le système judiciaire est très long. Aucune nouvelle, de rien. Donc, lui, il a été déjà jugé pénalement pour mon cas. C'est peut-être la chose... Pardon, je sais pas, c'est la chose qui me met le plus en colère. C'est de recevoir un courrier où... On ne vous prend pas du tout en considération, en fait. Voilà. On ne me demande pas, moi, comment je vais, qu'est-ce qui m'est arrivé entre-temps. On m'indique simplement que la personne en question donc, a bien accepté... C'est où ? A accepté donc, les mesures proposées d'une amende donc, de composition pénale de 600 euros.
avec un délai de 6 mois donc, pour régler cette somme. Entraînant donc l'extinction de l'action publique concernant les infractions ci-dessus mentionnées, qui veut bien dire que je n'ai absolument pas le droit de faire appel à cette décision. Donc oui, 600 euros d'amende, je trouve que c'est peu, et au-delà du montant, c'est, au bout d'un moment, c'est la considération. Je sais que le seul chef d'inculpation qu'il a eu, c'est l'utilisation de photos personnelles me concernant. On n'a pas d'usurpation d'identité alors qu'il y a mon visage et mon prénom. J'aurais au moins aimé, alors moi c'est même pas une question de montant, mais j'aurais aimé par contre qu'il aille en correctionnel. Voilà, qu'il se retrouve déjà face à moi et que moi je sois présente ce jour-là pour que mon avocate puisse expliquer moi aussi ce que j'ai enduré à côté. Mais ça aurait été bien parce que là il se retrouve avec un procureur dans une pièce en huis clos au lieu de se retrouver dans un tribunal et puis de prendre une sanction, quelque chose de vrai. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me, et encore aujourd'hui, à me retrouver jolie ou à m'accepter ou à m'aimer. Mais j'ai compris depuis un moment que le chemin pour moi de la reconstruction ne serait... Il ne faut pas que j'attende après la justice.
Nous sommes à la caserne Courrèges. C'est là où se trouvent à Toulouse les principaux services de la gendarmerie. Nous allons rencontrer le major Cranier, qui est spécialisé dans la traque des crimes et délits sur Internet.
Pour ce genre d'infraction, on a tendance à avoir beaucoup de peines pécuniaires, des choses comme ça. Ce qui peut être motivant pour l'auteur, il se dit, tiens, pour 500 euros, je sais que je l'ai bien ennuyé, je peux peut-être continuer. La difficulté, c'est de bien décrire, en fait, le préjudice de la personne. L'infraction de cyberharcèlement n'existe pas. Mais pour qu'elle se constitue, en fait, elle se constitue de plein d'autres petites infractions, c'est-à-dire les mécaniques qui sont mises en place pour faire ce cyberharcèlement. Et c'est là que ça pose problème, parce que les gens, pour récupérer les preuves qui vont constituer chacune ces petites infractions, ont bien du mal à nous les présenter. Bon, effectivement, vous me dites, vous vous êtes fait harceler par SMS. Est-ce que vous pouvez me donner vos SMS ? Non, je les ai tous effacés parce que je ne veux plus en entendre parler. Je dis oui, mais malheureusement, on ne peut plus obtenir les informations qui sont capitales après pour pouvoir aller en justice. Sinon, on ne pourra pas. On a bien compris que c'était les éléments matériels qui vont pouvoir nous permettre de dire oui ou non à la question est-ce qu'il a commis l'infraction ou pas.
Alors, dans les cas qu'on a vus aussi et sur Internet et hier lors de notre reportage, il y a par exemple un ex-conjoint qui met des vidéos intimes et des photos de nus sur Internet contre l'avis de la personne. Alors, la personne les a récupérées. Qu'est-ce que risque la personne qui est auteur des faits ?
L'objectif est de savoir si la mise en ligne a été consentie. On était d'accord au moment de la prise de photo. Regardez Laure Manaudou, c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, la mise en ligne, ça, c'est une infraction. Et là, ça demande le consentement. Et si ça n'a pas été fait, là, il y a une infraction. Maintenant, faut-il le prouver ?
Alors justement, quels sont les conseils que vous donneriez aux gens, déjà, pour se protéger eux-mêmes de ce genre de choses ?
Je vous dirais presque... Si vous ne savez pas utiliser des produits informatiques, soit vous allez prendre des cours, soit vous essayez d'être pragmatique sur vos usages. Il y a vraiment des choses qu'on ne ferait pas naturellement dans la vie. Pourquoi les faire sur Internet ? Au pire aller, je perds mon téléphone. Mais si on n'a pas de mot de passe, si j'ai pas d'antivirus pour les logiciels qu'on va introduire, et si j'ai pas du chiffrement qui va empêcher la lecture de tout ce qu'il y a sur mon téléphone, dès que je le perds, j'ai donné toutes mes données personnelles. Quand on sait que le téléphone, c'est quasiment le point central à l'heure actuelle, et à l'avenir, ça sera sûr, de l'ensemble de l'écosystème numérique, là on dit c'est l'objet le plus précieux que j'ai, et pourtant je le sécurise même pas.
Le collège Pierre de Flamins à Castelsarrasin est un collège sans histoire d'un peu moins de 500 élèves. Les responsables du collège ont décidé de mettre en place des actions de prévention contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Ça concerne les classes de 6e et de 5e. Et cela s'est passé quelques mois avant la tentative de suicide dans un autre collège de la même ville d'une jeune fille de 13 ans. Un mur d'expression a même été mis en place au CDI du collège Pierre de Flamins pour tenter de briser la loi du silence.
Il y a une politique nationale quand même très forte depuis quelques années pour lutter contre le harcèlement qu'on considère maintenant comme une plaie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé depuis quelques années sur le harcèlement et en particulier donc, ces dernières années sur le cyberharcèlement qui n'est qu'une modalité du harcèlement mais qui lui donne une autre nature puisque ce cyberharcèlement amène le harcèlement à la maison en fait. Voilà, et y compris la nuit, dans la chambre, éventuellement, le jeune ou l'enfant se fait harceler par Facebook, par...
Et là, vous avez eu des cas dans le collège ?
Alors, on a On a tous des cas où certaines filles ou garçons finissaient par faire état de harcèlement, où leurs parents, parfois, viennent nous voir et disent « voilà, il se passe telle chose, mon enfant reçoit des messages sans arrêt ». Donc, on a essayé de travailler un petit peu. Alors, on a des partenaires pour nous aider, en fait. Bien sûr, les enseignants peuvent en parler dans les classes, leurs enseignements, travailler des textes, etc. Mais il y a des partenaires qui savent faire. Alors nous, cette année, ce que nous avons fait sur le cyberharcèlement, particulièrement, c'est deux choses. Un, c'est un clip vidéo, alors là, avec des élèves volontaires, sur le temps de la pause méridienne. Et ce clip vidéo pourra être utilisé à partir de l'année prochaine par les professeurs qui le souhaiteront pour des actions de prévention auprès... Les autres, ça sonne, il faut y aller, auprès des autres classes, si vous voulez, des enfants qui n'ont pas participé. Et puis, on a aussi voulu développer une action avec les parents, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est le cyberharcèlement, il faut qu'il y ait une coéducation et que les parents soient sur la même longueur d'onde que le collège. Et il y a eu une conférence donc, sur le cyberharcèlement avec des intervenants de la PJJ, des intervenants
de la protection judiciaire de la jeunesse.
Voilà, c'est ça. Et des intervenants d'une association. Malheureusement, nous n'avions que très peu de parents. Donc 500 environ invités, 25 parents présents environ, ou 20 parents. Et malgré un déploiement d'informations sur notre site, sur le journal, la dépêche, sur les affiches, etc. Voilà. C'est difficile parfois
de mobiliser
les parents.
Dégage, monsieur. On veut pas de toi. Tais-toi. D'où elle vient de parler? T'as vu ses frères? On dirait un groupe pourri. Alors, Payou, t'as encore une bonne note? Au prochain contrôle, t'as intérêt à m'aider. Sinon, tu prends un point, ça l'est où?
Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits. Le harcèlement, c'est trop souvent au collège, à tout moment. Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits. Le harcèlement, c'est trop souvent au collège, à tout moment.
Je perds la journée, j'arrive, je me fais insulter. À midi, je me fais bousculer. Et à la récré, je me fais taper. Et à la sortie, je me fais défoncer.
Et ça, c'est tous les jours, j'ai plus envie d'aller en cours. Je préfère m'isoler toute la journée, rester seule pour pleurer.
J'ai honte d'en parler, peur de me sentir jugée. J'ai déjà essayé, les adultes n'ont rien fait. Je comprends pas pourquoi moi. Je ne crois pas être différent.
Et pourtant, ça chante sur moi. À chaque fois, toujours mis de côté, ce sera pas autrement. Ça les fait tous rire, j'ai envie de mourir. Ça les fait tous rire, j'ai envie de mourir.
Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits. Le harcèlement, c'est trop souvent au collège, à tout moment. Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits. Le harcèlement, c'est trop souvent au collège, à tout moment.
Vous qui vivez ça, ne vous repliez pas. Allez en parler, cette chanson est là pour ça.
Réagissez.
C'est vrai qu'il peut être surprenant de voir des garçons de 14-15 ans, voir des filles de 14-15 ans harceler d'autres filles parce qu'elles s'habillent avec des jupes trop courtes, par exemple, ou parce qu'elles ont eu un petit ami et puis un autre le lendemain. Donc, ce sont des propos souvent extrêmement sexistes qui ressortent sur ces messages de harcèlement. Voilà. Donc, c'est quand même étonnant. Et parfois, il m'arrive de leur dire « Mais nous sommes au 19e siècle ou quoi ?» à être encore sur ces questions de réputation à partir d'une tenue l'usage des termes très crus est assez courant, c'est vrai. Donc la prévention contre les violences aussi faites aux femmes, faites aux filles est importante parce que on sent que ces questions d'égalité filles-garçons ne sont pas réglées.
C'est-à-dire que malgré toutes les actions qui peuvent être faites, ça suffit pas. La preuve.
Mais ça ne doit pas suffire. Alors il y a bien sûr plusieurs facteurs qui entrent en jeu, l'entourage familial éventuellement, mais peut-être aussi le fait qu'ils sont dans la construction aussi d'une identité sexuelle et qu'ils s'affirment avec des mots qu'ils connaissent et qui sont devenus d'usage courant, mais qui portent quand même des significations fortes.
Il faut qu'on dise de quoi on parle. Si on dit pute, voilà.
C'est... Et voilà, donc c'est un terme effectivement qui revient souvent dans les messages. Hein. Et souvent, les filles qui sont victimes de ça disent « Mais pourtant, je fais attention à la façon dont je m'habille. » Voilà, donc elles sont déjà dans la justification, alors qu'on n'a pas du tout à les traiter comme ça, tout simplement. Donc, il y a encore du travail, c'est à recommencer toujours.
Vous êtes Mouloud Ramdani, bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Donc, c'est vous qui avez organisé la conférence sur le cyberharcèlement, c'est ça?
Tout à fait. Je suis donc coordonnateur d'un dispositif atelier relais sur le Tarn-et-Garonne. Et donc, par le biais de la Ligue de l'enseignement 82, donc nous avons mis en place donc cette conférence à l'attention des parents et des professionnels de l'éducation.
Eh ben écoutez, je vous remercie de nous recevoir chez vous. Ben on va peut-être rentrer.
Je vous en prie.
Il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est vrai.
Tout à fait. Allez. Il y a eu une tentative de suicide suite à un cyberharcèlement d'une élève de 4e.
Du coup, je suppose que ça a forcément interpellé la communauté éducative.
On en parlait entre nous, mais c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était le déclic, c'était l'élément déclencheur.
Est-ce qu'il y a eu un enchaînement de faits qui explique qu'il y ait pu y avoir cette tentative et qui aurait peut-être pu être évité?
Tout à fait. Donc ce cyberharcèlement, il est vraiment insidieux, donc on ne le voit pas. L'élève arrive chez lui avec... ce cyberharcèlement, puisque avant le cyberharcèlement, le harcèlement s'arrêtait aux portes de l'école, sauf que le cyberharcèlement, c'est 24 heures sur 24, et même au domicile. Donc sur Facebook, sur les tablettes, sur les ordinateurs, sur ask.fm, sur Twitter. Donc du coup, l'élève n'a plus de frontière entre l'école et chez lui, il n'a plus de moment de repos. Il n'a peur, il n'ose pas en parler aux parents. Les parents ne détectent pas forcément de prime abord les soucis de l'enfant. Et c'est après donc des éléments qui s'enchaînent, la phobie scolaire, l'échec scolaire, qui font que l'équipe éducative est alertée et pointe du doigt un dysfonctionnement et donc le cyberharcèlement.
En l'occurrence, pour cette tentative de suicide, est-ce qu'il y avait eu quand même des signaux d'alerte dont vous aviez pu parler entre vous, ou vraiment vous êtes un peu tombés de la chaise les uns et les autres?
On est tombés vraiment de la chaise les uns des autres, comme je vous l'expliquais. Le cyberharcèlement, c'est vraiment très insidieux, c'est vraiment sournois. Au départ, l'élève en question, donc le harceleur, fait ça pour s'amuser, hein, entre guillemets. Il ne voit pas donc sa victime puisqu'elle est derrière l'écran, donc du coup il ne voit pas l'impact que provoque ce cyberharcèlement, et donc du coup cette jeune fille très fragilisée par ces harcèlements répétés donc a fait un passage à l'acte.
Dans ces cas-là, est-ce qu'on en parle en classe? Est-ce que vous en profitez pour faire de la pédagogie?
Nous n'avons pas entendu donc ce cas-là pour pouvoir faire de la prévention auprès des élèves et auprès donc de l'équipe enseignante. Donc dès le début de l'année, il y a des projets qui sont menés au sein des établissements scolaires. Donc il y a une intervention donc auprès donc de la MAE, il y a un gendarme spécialisé, monsieur Provost, qui est intervenu au sein des établissements auprès des élèves. Nous-mêmes donc nous avons mis en place donc cette conférence à l'attention des parents et toute l'équipe éducative avec les élèves ont formé un grand nom au milieu de la cour, donc avec des personnes, et un drone a filmé et a pris des photos pour dire non au harcèlement.
Ce que vous regrettiez quand même, il faut dire ce qui va pas, c'est qu'à votre conférence, il n'y a eu que 25 parents.
Tout est relatif. Que 25 parents. On a du mal à toucher les parents au niveau des collèges, au niveau des établissements. Donc 25 parents pour une conférence sur le cyberharcèlement, je pense que c'est bon an, mal an, une réussite.
Pour aller plus loin, il faudrait quoi?
Alors on a du mal, vraiment du mal à les sensibiliser. On passe par le biais de la FCPE, on passe par le biais de la Ligue de l'enseignement, on passe par le biais de la MAE. On a l'impression que les parents sont auprès de l'éducation nationale, mais ont du mal à s'associer à l'éducation nationale.
Est-ce que les parents sont conscients de tous les dangers que ça représente.
Je ne crois pas. Je pense que les parents sont loin de s'imaginer tous les dégâts que peuvent provoquer ces cyberharcèlements via Internet, via le Facebook, via le Ask.fm, via le Twitter, via le WhatsApp. Il y a énormément de sites que les jeunes adolescents et même avant l'adolescence fréquentent et qui font des ravages auprès de nos jeunes.
Le problème du cyberharcèlement, vous le disiez, c'est que c'est quelque chose de très insidieux. Du coup, c'est très difficile à détecter. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelques conseils à donner aux parents comme aux enfants ?
Alors, déjà, par rapport aux parents, qu'ils soient vraiment très vigilants concernant la législation par rapport à tous ces sites Internet, Facebook, puisque nous voyons des sixièmes qui ont une page Facebook, alors même que légalement, ils ne devraient pas en avoir. Et les conseils que nous pouvons prodiguer à nos élèves, c'est de faire très attention par rapport aux amis qu'ils acceptent, surtout de ne pas utiliser le dernier site ask.fm qui a très peu de modérateurs par rapport à tout ce qui se fait, et puisqu'il se fait dans l'anonymat complet.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des outils qui permettent de limiter ce genre de dégâts ?
Alors, moi, ce que je conseille aux élèves, c'est des captures d'écran. Donc, avec une capture d'écran, on peut déjà alerter l'équipe éducative, on peut alerter les autorités par rapport à cet harcèlement.
Lauriane et Mathilde ont 14 ans. Elles étaient jusqu'en juin dernier membres du conseil départemental des jeunes du Tarn. Avec d'autres membres de ce conseil, elles ont imaginé un serious game, une sorte de jeu de rôle pour parler du harcèlement. Son nom, Harcel Game. L'Académie de Toulouse l'a trouvé tellement réussi qu'elle a décidé de faire de Harcel Game une ressource pédagogique à la disposition de tous les enseignants. Harcel Game, comment ça marche ? Un exemple concret avec Mathilde et Lauriane.
Vous êtes devant votre ordinateur et Axel, une connaissance du lycée, décide de se venger de son ex, Léa. Il publie alors une photo dénudée d'elle. Que décidez-vous de faire ?
C'est ça.
Et alors, Cyberbook, vous avez trouvé un look qui est très, très ressemblant à un réseau social dominant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement ?
Là, on arrive devant la photo. Donc, les choix ici, donc, c'est soit aimer la publication, on peut la commenter aussi, la partager, la signaler. Après, on a aussi la messagerie, donc. Pour ça, c'est pour parler avec les élèves. Donc ici, Axel, le harceleur. Léa, la victime. Miloud et Arnaud, c'est des témoins. On peut aussi aller sur la messagerie scolaire. Donc là, c'est le moyen de prévenir des adultes. La documentaliste, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ou un professeur. Par exemple, si on choisit de cliquer sur « signaler » ou « sur partager », on a un petit message qui s'affiche et qui nous explique donc les conséquences que ça a.
Alors, lisez-nous le message.
Sans penser aux conséquences pour Léa, tu amplifies le problème et tu encourages Axel et les autres à continuer. Au contraire, Léa a pu être blessée, elle s'est renfermée sur elle-même. Les publications sur Internet durent longtemps et peuvent difficilement être effacées. Elles peuvent être très vite diffusées. On a un lien vers le site de netécoute.fr, donc, qui lutte contre le cyberharcèlement. Là, on peut retourner sur le mur de Cyberbook et essayer d'autres choix.
Donc le mur de Cyberbook est fait exactement comme si une personne allait le soir sur son réseau social. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle était confrontée à cette publication ? Vu que quand on est en réel, on peut aller parler, on peut aller débattre. Quand on est là, juste en un clic, on peut amplifier le problème, et c'est exactement ce qu'on voulait représenter en choisissant de faire quelque chose comme si c'était un vrai mur de réseau social.
Alors, il y a quelques commentaires quand même.
Si on poste un commentaire, là aussi, on a plusieurs choix de commentaires.
Alors, allez-y, lisez-nous ce qu'il y a écrit.
Arrête, ça va pas, tu te rends pas compte des conséquences pour elle, ou encore, non mais c'est n'importe quoi, t'es trop con, mon pauvre, ou encore, stop, arrêtez, vous aimeriez être à sa place, enfin voilà. Donc, par exemple, si on prend celui-là, donc, oui. Le troisième. Et là aussi, on a un petit message qui nous explique. Donc, grâce à ton aide, Axel supprime la photo et va s'excuser auprès de Léa. Il poste un message public. Malgré ça, de nombreuses personnes ont vu et partagé la photo. Donc, les ennuis peuvent continuer pour Léa jusqu'à ce que les gens oublient. Et donc, pareil, le lien vers le site NetEcoute et les informations.
Vous avez écrit collectivement aussi les messages et les messages de prévention ?
Oui, donc tous les scénarios, toutes les situations, c'est nous qui les avons faites. Les sites, on les a trouvés, on les a ajoutés dans les ressources du site.
Tout est écrit par nous, donc des commentaires, au choix. Et en fait, on prenait des grandes fiches où on écrivait, on faisait des bulles, on écrivait telle bulle à ramener à tel
arbres,
choix.
Ouais.
Ça faisait des gros
arbres
durs à se repérer. Et après, on a donné tout ça au développeur et il a tout tapé et tout codé. Mais à la base, c'est nous qui avons écrit toutes les phrases. On les a fait corriger par la psychologue pour être sûr que c'était réel, quoi, que ça, c'était vraiment ce qui se passait dans les vraies situations.
Vous avez eu une discussion entre vous, vous avez dit « tiens, on pourrait faire un jeu », ou quelqu'un avait l'idée et est arrivé avec?
C'est vraiment entre nous, parce qu'à la base, on voulait faire une vidéo choc, comme sécurité routière, quelque chose de... Puis après, on s'est dit qu'en fait, souvent, les victimes, elles étaient vraiment pas bien à ce moment-là, et que ça servait à rien de revenir par derrière avec quelque chose
de violent.
C'est de, voilà, suicide, tout ça, c'est ce qu'on en entend partout. On a dit non, nous on va être différent, on va faire un message positif, leur prouver qu'à partir du moment où elles réagissent, ça peut que s'arranger.
Lauriane, vous imaginiez, avant de vous intéresser au jeu, qu'il y avait autant de dangers sur les réseaux sociaux?
J'étais consciente des dangers qu'il y avait sur Internet. Mais après, moi on m'a toujours dit de faire gaffe à qui voyait mes publications, tout ça, de faire le tri dans mes amis régulièrement.
Et justement, est-ce que vous utilisez par exemple les paramètres de confidentialité? Vous les réglez comment? Vous savez les régler?
Oui.
Vous savez, est-ce que c'est votre vrai nom sur Facebook ou un pseudo?
Moi, c'est un mélange pseudo-prénom, voilà. Mais après, je sais que en public, on voit rien de mon profil. On me voit juste ma photo de profil et ma photo de couverture. C'est ma vraie photo, c'est vrai. Après, je suis un peu cachée, mais bon, après.
Et vous, Mathilde? Comment vous faites?
Donc moi, il y a mon vrai nom, mais après, il y a très peu de publications déjà, de 20. Puis mon compte est bloqué, donc si on marque mon nom, les seules choses qu'on peut trouver, c'est des choses avec le CDJ, donc du jour des journalistes, des choses comme ça. Mais ma photo de profil, c'est une image, c'est pas une photo, donc on peut pas voir ma tête. Déjà, de 20, pour notre vie plus tard, j'ai pas envie que les personnes aillent marquer mon nom et tombent sur toute ma vie juste en cherchant sur Internet. Il y a toujours ce risque qui est là, en fait. Enfin, on le savait déjà et de le travailler dessus, ça nous conforte dans l'idée de faire tout le temps attention à ce qu'on met sur Internet, aux répercussions et au fait que ça ne s'efface pas. Tout reste. Même si on l'efface de Internet, du réseau social, ça reste dans tous les trucs Internet.
Mais rien n'est jamais effacé.
Rien n'est jamais effacé. Donc en fait, ça fait peur d'un côté, donc on se dit non, ça je ne mets pas, ça je ne mets pas.
Le truc le plus safe, c'est les lettres.
Cyberharcèlement, la haine au bout du clic, c'était un reportage de Stéphane Iglesis, prise de son Jean-André Giannichini, réalisation de Michel Soulier avec Stéphane Combe, mixage Jean-Philippe Jeanne. Vous pouvez réécouter ce reportage sur notre site franceinter.fr. À la semaine prochaine et bonne année à tous.